Et ça.
Eh ben au 01 43 71 89 40 sur Radio Libertaire. Radio Libertaire, ça n'a pas changé, Urbi comme Orbi, c'est la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître. Mais vous avez une très bonne librairie, ben, 145 rue Amelot, pour trouver les publications et puis les livres qui tournent autour de l'esprit libertaire. On est bien sûr Onde de choc, le dernier comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Daniel Ziv, pour la... oui, bonjour.
Bonjour.
Voilà, carrière va partir fulgurante, là, ça va être extraordinaire. Hein.
Ça y est, elle est cassée.
Ça y est, oh, c'est ça fini, là.
C'est bon, voilà, sur orbite.
Éric Tessier, qui est habitué, oui. Alors quel état il est maintenant.
Oh là là.
Hein. Voilà. Et bonjour Jacqueline aussi, c'est quand même un plaisir.
Bonjour Géant.
Alors j'ai eu un petit problème avec Monique, quand elle a su que tu venais aujourd'hui. Tu sais que Monique est une femme très pieuse. Hein, très pieuse. Dont l'œcuménisme n'est absolument pas... remettre en cause la Torah.
Je t'ai entendu le dire déjà, oui.
La Torah, la Bible, tout
pauvre
ça.
Monique, pauvre Monique.
Le Coran, il n'y a aucun problème. Alors, elle m'a dit la semaine dernière, écoute bien ce qu'elle a osé me dire, qu'elle ne venait pas aujourd'hui pour moi, mais pour toi.
C'est vrai.
Oh,
ouais.
C'est gentil.
Oh, c'est gentil, Monique.
Alors, tu sais, tu connais la formule, hein, la jalousie est à tout le monde, c'est les femmes ne sont à personne.
Oh, bon, c'est beau, ça.
Non, c'est pas de moi.
Enfin, c'est... Hein. Oui?
C'est les enfants du paradis, Jacques Prévert. Hein.
Ah,
c'est
oui.
Magnifique, hein, là... Voilà. Bon, on a plein de choses à se dire, je pense.
Ouais.
On a eu un petit contretemps il y a quelques semaines. On devait recevoir Françoise Vergès pour faire une émission consacrée à Aimé Césaire. Elle n'est pas venue, c'est remis au 9 décembre. Oh, corrigez-moi, oh là là. Ça va être le 9 décembre, voilà. Ça vous inspire, Aimé Césaire, vite fait? Personne?
Oui, un peu.
Bien entendu.
Mmh. Ouais, magnifique, je ne sais pas si vous l'avez relu. Oui. Non, personne, texte politique.
Moi, j'ai pas lu spécialement.
Texte politique sur le colonialisme est complètement d'actualité. Mmh. Il a été très, très, très loin dans la démarche. C'est en 1950, et il se permet de... Alors, il est déjà député, il se permet de comparer le bourgeois européen à Hitler, quoi.
Ah oui. Mmh.
C'est-à-dire qu'il y avait une arête au niveau de la société, au creux du gosier.
Ouais.
Voilà, donc on reçoit Daniel Ziv, on reçoit Éric Tessier. Vous avez un point commun que j'ai découvert il y a deux minutes. Avec un troisième personnage, c'est Jacques Lacan.
Ah.
Tout le monde a traité d'Antigone. Hein, dans Pauline Ultime,
oui.
Tu parles d'Antigone.
Oui, tout
hein,
à fait.
Jacques Lacan parle d'Antigone. Et Antigone, bien sûr.
Et Jacques Lacan, dont je suivais quelques cours du temps de la fac de Vincennes, j'ai créé un roman policier. Et en fait, il y a une phrase avant le roman policier de Lacan. Si on comprend la phrase, on a compris tout le roman policier.
D'accord.
Ah.
Et c'est pour ça qu'il y a une petite dédicace dans votre livre, là, ou non? Ou c'est quelque chose qui vous poursuit, Jacques Lacan?
Lacan ne me poursuit pas, mais c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. C'est en plus un personnage qui avait un humour absolument considérable. Et qui était brillant, parfois difficile à suivre, difficile à comprendre, bien sûr, mais remarquable. Mais il ne cherchait pas à être compris. Même lorsqu'il donnait ses cours.
Bah, le paradoxe, c'est que pour un psychanalyste qui doit théoriquement éclairer l'âme humaine, il dit très très clairement qu'il veut s'inspirer de Mallarmé. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dès le départ. Alors, la maison d'édition date depuis quand, Daniel?
Alors, Z4 Édition a été créée il y a 3 ans maintenant. 3 ans, 4 ans. C'est une maison d'édition, en fait, je voulais avant tout publier les auteurs qui étaient dans des pays censurés, là où ils ne pouvaient pas s'exprimer, en me disant, maintenant avec Internet, ils peuvent publier dans toutes les langues qu'ils veulent, dans ma maison d'édition. Ça n'a pas véritablement fonctionné, parce que c'est toujours dangereux, même quand on est dans un de ces pays et qu'on publie dans un autre pays, c'est quand même très dangereux. Donc on s'est plus tourné, en fait, ensuite vers la mémoire d'une manière générale. Évidemment, d'autres livres sont arrivés et voilà, comme ils étaient merveilleux, ben, on était obligé de les publier.
Ce n'est pas que je tienne tellement au livre d'Éric Tessier et Lucizia qui vient de paraître.
Moi, je suis très déçu. Tu n'as pas dit que j'étais le plus mauvais écrivain.
Mais ça va venir. Ça va être progressif.
Ah, d'accord, pardon.
J'annonce ça.
Je voulais le climax.
J'ai été quand même, comme j'ai bon cœur, j'ai quand même conseillé ce livre à des gens. Où peut-on le trouver ?
Alors, pour le trouver, le plus simple, c'est évidemment d'aller sur le site de Z4 Éditions. Sinon, je dirais presque malheureusement, évidemment, Amazon. Mais on n'aime pas vraiment vendre sur Amazon. Mmh. Et sinon, bien entendu, tous les libraires peuvent se le procurer. On a beaucoup de libraires qui nous demandent des livres. Et à partir de là, on peut le commander chez son libraire.
Il faut le commander chez le libraire. Il n'y a pas de diffuseur, c'est ça que je voulais dire.
Non, il n'y a pas de diffuseur.
C'est ça.
Hein? Non, pour limiter les coûts, en fait, on essaye de... Z4 Éditions est une association. C'est-à-dire, on n'est absolument pas à but lucratif. Donc, on essaye de publier les livres au meilleur prix possible, avec le minimum de frais. Cela étant dit, évidemment, lorsque c'est un libraire, il y a la commission du libraire qui est classique, les frais de port offerts, etc., etc. On est heureux de vendre au libraire, ça c'est clair.
Donc, bah, Éric Tessier...
Il y a Publico aussi.
Il est disponible à Publico.
Ça, c'est pour dire, on va toucher Publico. Il y a depuis quand ? Attention, ne me mentez pas, Éric Tessier. Hein. Oh. Nous avons quelques rapports depuis très longtemps. Je ne veux pas, à l'issue de cette émission. Il y a 15 jours, c'est bien.
À peu près, il y a 15 jours.
Parce que j'ai envoyé quelqu'un il y a plus longtemps, il n'a pas trouvé.
Ah. Oui, c'est vrai.
Donc, si j'ai bien compris, je croyais que vous aviez atteint le pire avec l'extase du prédateur. Publié en quelle année ?
Oh là, le Prédateur, 2005.
2005, c'était aux éditions de...
C'était la Nef des Fous.
C'était la Nef des Fous.
Ouais.
Et après, je me suis aperçu que je m'étais trompé avec Pauline Ultime, parce qu'il y avait déjà un stade au niveau du pire qui avait été passé.
Oui, c'est vrai.
Hein, voilà. Et puis
ça
là,
a été plus loin, oui.
Et là, il y a un grand écart. Je ne dis pas que ça s'est amélioré, hein, pas du tout, mais il y a un grand écart. On n'est plus dans la même matière, hein.
Non, c'est vrai.
On n'est plus dans la même matière. Avant, pour commencer l'émission, j'ai choisi une petite chanson pour Daniel. Franchement, si vous ne l'identifiez pas, vous sortez du studio de Radio Libertaire tout de suite.
Bon, ben, à bientôt.
Au revoir, Daniel.
J'étais très heureux de vous rencontrer.
Je ne sais pas si on va revenir, on va écouter ça. Je veux dire qu'on a eu une conversation téléphonique il y a quelques années, mais comme vous n'avez pas de mémoire, ce n'est pas grave, mon cher Éric Tessier. Oui. Je vous dis que L'Extase du Prédateur était un livre de débauché. Je vous avais dit à l'époque, un livre de débauché. Et je vous ai dit que généralement, les débauchés, très souvent, en vieillissant, s'intéresse au Tyler Rosier, s'intéresse à leur jardin et à la nature.
C'est vrai, tu m'en avais parlé.
Je vous avais dit ça.
Je m'en souviens.
Voilà. Et je vous avais ajouté en mezza voce, j'ai dit, il faut toujours faire attention à leurs coups de cisaille, car ils sont alors très pervers. Et c'est ce que je me suis dit, ce qui a sous-tendu un peu la lecture d'Amicizia.
Ah tiens.
Voilà, on écoute, merci Monique.
On y enferme de temps en temps, et tout ça s'accouche avec des truands, des capitaines aux yeux si bleus, qu'on voit la France pleurer dedans. Des Jeannettes au ventre si blanc, qu'on voit la France bouger dedans, et des rouges au cœur si grand, qu'on voit la France s'aimer dedans. Paris-Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris-la-Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris-Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien dent voisine avec la fleur des champs. On y promène de temps en temps, dans 4 mètres de murs blancs, des quarantaines de printemps, qui sont en berne des firmaments, aux mains de laine sortent d'enfants. Chaque semaine ça fait 100 ans, la belle que l'on t'attend, un barreau de frêne entre les dents. Paris-Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris-la-Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris-Cayenne avec tes gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien dent voisine avec la fleur des champs. On y malmène de temps en temps dans des arènes de ciment des fortes têtes aux cheveux blancs qui ont eu le rêve trop entreprenant. Des athées qui savent à 20 ans, qui sèment la poudre, récoltent le sang, qu'on ramène à Fresnes sans ménagement, voir si d'un Jésus on fait un forban. Paris Cayenne, tu as la dent dure à ceux-là qui sont dedans. Paris la Seine, il y a trop longtemps que tu coules entre deux agents. Paris Cayenne avec des gants, ça fait plus chic, c'est moins voyant. Depuis qu'en France, pour la reine, prend des allures d'océan. On dit qu'à Fresnes, le chien dent voisine avec la fleur des champs.
Niels Yves, là, vous restez ou pas?
Malheureusement, je reste, parce que Maurice, en plus, était un camarade. Il allait sur scène, il chantait, de temps en temps, il s'arrêtait de chanter pour venir me piquer une gauloise. Et retournait chanter avec ma gauloise. Mais bon, et ce qui est très drôle aussi, c'est que là, j'essaye de publier 12 nouvelles totalement inédites de Maurice. On n'arrive pas à les retrouver, je suis en discussion avec sa femme. On les cherche partout, et dès qu'on les trouve, si on les trouve, j'aurais vraiment le grand, grand plaisir de les publier. Maurice était un type extraordinaire, je pourrais parler pendant des heures de Maurice.
Moi, je l'ai vu une fois sur scène, il était ivre-mort.
Toujours.
Il était ivre-mort.
Oui.
Mais petite parenthèse, reparenthèse, parce que j'en ai parlé là, il n'y a pas longtemps, c'était style Mouloudji. Mouloudji, la dernière fois aussi, je l'ai vu, il était ivre-mort.
Ah ouais?
Voilà.
Ah ouais.
donc ils arrivent à avoir une continuité comme ça. Mais toi qui n'es pas très porté sur la musique, sur ce genre de chansons, il faut bien le dire.
Oui, voilà. Voilà. Encore que ça s'est largement ouvert.
J'ai remarqué, tu as progressé.
Ces dernières années.
Tu as progressé. Mais ça tient le choc.
Évidemment.
Ça tient le choc.
Ah ben évidemment,
oui.
Évidemment.
Voilà. Mais ce genre de chansons et ce genre de chanteurs, c'est là qu'on fait le tri. Parce que lorsqu'ils apparaissent, bon, ils sont là, c'est les en passant, on voit qui résiste.
Oui.
Quel type de voix résiste, quel type de texte résiste.
Il y avait un copain de Maurice qui chante toujours. Et qui malheureusement n'est pas assez connu, c'est un type tout aussi extraordinaire, c'est Jean-Marie Vivier. Et Jean-Marie chante toujours, très peu de gens connaissent les textes de Jean-Marie, et c'est hallucinant. C'est vraiment aussi quelqu'un de remarquable, comme Maurice bien entendu.
Robert Desnos disait « Pourquoi écrivez-vous pour vous donner rendez-vous ?» Et je vous ai lu tous les deux, Monsieur Tessier, malheureusement je vous ai lu, Daniel Zimon aussi. Et c'est très drôle, c'était un sur-rendez-vous. Parce que ça m'a fait relire, cette semaine, André Ardelais. André Ardelais. Ça vous dit quelque chose, parce qu'à vous lire tous les deux, vous êtes en plein dans le coup, là.
Le Seuil du Jardin.
Le Seuil du Jardin,
le parc de Vincennes.
Voilà.
Bien entendu. Hein,
Eric, tu as pratiqué un peu, André Ardelais?
Ah, pas du tout.
Si, Eric, tu connais certainement André Ardelais sans le savoir.
Ah, bah, c'est certainement,
parce qu'il
oui.
a écrit une chanson.
Si tu reviens,
il n'a jamais chanté chez Temporel.
Ah, bien sûr.
Ça s'appelle Le Tremblay, et ça a été.
Ouais.
Et c'est très marrant parce que ses parents avaient un petit négoce de bijoux burma.
De horloger.
Oui, horloger, mais pas grand-chose.
Ouais.
Donc, lui, il a fait le poète, et il a vécu avec le petit commerce de ses parents. Et au miracle, il y a Guy Béard qui un jour a mis en musique deux de ses chansons, Le Tremblay, chez Temporel, et puis une autre, je ne sais pas si, vient de la Gambie, Tu verras les filles, une chanson comme ça, et il va en vivre quasiment toute sa vie, quoi, avec deux titres d'auteur.
Mais il aura des problèmes avec la censure.
Ah oui, vas-y, parce que ça c'est intéressant.
Lourdes-Lentes, qui est un livre.
72-73, c'est Giscard.
Oui, et il a été attaqué pour ce livre qui n'a vraiment rien de pornographique, il faut dire, mais bon. Une fois de plus, la censure a frappé et il a eu beaucoup de problèmes, mais énormément de gens sont venus le défendre, heureusement.
Mais le thème est très beau dans Lourdes-Lentes, je ne sais pas si vous l'avez en mémoire, hein, le petit garçon. C'est un petit garçon qui a sa nourrice, elle s'appelle Germaine, Mémène, elle est lourde, et elle est lente. Et toute sa vie, il va être hanté par ça.
D'accord.
Voilà. Et avant qu'on passe à à des choses sérieuses. Jacques Chirac nous a quittés il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous entendez. Et Jacques, il y a une petite anecdote comme ça, que la ville de Paris avait, a un jour, il y a eu un gros livre publié chez Segers, comme ça, qui était sponsorisé par la mairie de Paris, qui a tiré des millions d'affiches. Bah, il marquait André Ardelais, parce qu'il avait fait la préface. Et il y avait une faute d'orthographe sur l'affiche.
Je l'avais à la maison, avec un seul L.
Il a fallu que ce soit Guy Chambellan, rue Racine, petit éditeur, qui téléphone, qui fasse une démarche pour qu'on enlève les affiches, pour qu'on en tire d'autres. C'est absolument génial.
Ils n'en ont pas tiré d'autres. Moi, j'avais appelé aussi à l'époque pour leur dire c'est scandaleux quand même d'avoir ces affiches dans tout Paris, avec une erreur dans le nom d'André Ardelais. Ils les ont retirées, effectivement, mais j'en ai jamais revu de nouvelles. Ils m'en ont envoyé une, d'ailleurs. Mais l'ancienne.
Ah ouais. Et le soir de la signature, notre cher Chirac, qui n'est pas venu sur Onde de Choc, d'ailleurs, homme très cultivé, le jour où il y a eu le lancement du livre à la mairie de Paris, il est là, et à un moment donné, il dit « Qu'on me présente ce monsieur Ardelais ». Il était mort depuis 6 mois.
D'accord.
C'est absolument magnifique, donc, en histoire. Voilà. Bon. Alors, responsable de la publication du livre d'Éric Tessier Amicizia, hein? Pourquoi vous faites compte? Parce qu'il y a des points communs entre vous et lui, hein?
D'abord parce qu'on a un ami commun,
ouais.
Pierre Barachan.
Ah, je me disais bien qu'on allait en parler.
Mais oui, il faut en parler. Pierre Barachan et sa compagne Émilie, qui écrivent des livres absolument remarquables, mais on en parlera peut-être plus tard. Donc c'est grâce à lui qu'on se connaît. Ouais. Et c'est très amusant parce que Amicizia, et je prononce mal, je suis désolé,
accent. Non, on prononce comme on veut.
Est un livre quelque part, bien entendu, sur le temps.
Ouais.
Et le temps, c'est aussi quelque chose qui me passionne.
Oui.
Et le dernier livre que j'ai fait est avant tout sur le temps, avec des discussions avec le temps.
Déjà éclairé au moins sur le titre.
Amicizia.
Ouais.
En fait, ça veut dire amitié en latin. Hein. Ça part toujours de choses chez moi. Parce que moi, en fait, ce que j'aime, c'est que quand j'écris, c'est arriver à l'endroit où je sais pas où je vais, où je suis devant un terrain vierge. Je pars pas avec l'idée de me dire je vais faire un plan, je vais préparer un bouquin.
Ce qui répond pas à la question, Eric.
Non, mais je suis en train d'essayer de t'expliquer.
Attention, Eric, de pas trop.
Donc c'est parti sur une idée qui concernait. Qui avait rien à voir avec ça. Ça s'appelait. C'était par rapport aux Rolling Stones. Et je voulais raconter une histoire sur le temps, puisqu'ils se sont installés en France dans les années 70, dans une maison qui avait été un QG de la Gestapo. Et je voulais mêler des histoires entre un groupe de rock qui se retrouve enregistré dans un endroit où avant on torturait des gens. Voilà. Et il s'est trouvé que cette maison s'appelait Nelcott, c'est sur la Côte d'Azur, ouais. Et que je me suis dit tous ceux qui connaissent le rock vont faire la relation tout de suite. Donc j'ai regardé. En fait, le premier nom de cette maison, c'était Amicizia.
Ah. D'accord,
ou Amicizia, hein, comme on veut. Donc j'ai gardé. Je me suis dit c'est un bon nom. Et après, évidemment, je suis parti totalement sur autre chose que les Rolling Stones et la Gestapo. Mais ça, c'est normal. Je fonctionne comme ça, quoi. Voilà, c'est ma façon de travailler. Moi, j'écris 5-6 pages en général, et je me dis bon, maintenant, qu'est-ce que je peux tirer de ce que j'ai fait? Alors, comme j'ai quand même des choses qui reviennent tout le temps, notamment le temps, le rapport au temps, des choses comme ça. Je tire un fil, je laisse ce que j'appelle la logique interne de l'histoire. C'est-à-dire, c'est presque l'histoire qui me guide. Et puis moi, j'intègre mes propres trucs dedans. Puis ça finit par se construire comme ça.
Alors, comme j'ai fait l'effort de te lire un petit peu.
J'ai cru remarquer.
Voilà, un petit peu. on a l'impression, quand je dis même pas une impression, qu'il y a dans le principe de l'écriture une intelligence. Laisse-moi tu vas voir. Comme s'il y avait une mémoire dans l'écriture.
Ouais.
Tu vois, je veux ouais. dire que on nous a bassinés avec l'écriture automatique. Mais une écriture automatique sans mémoire, sans rien à l'intérieur, c'est pas intéressant. Mm. C'est-à-dire que c'est le texte qui te révèle à toi-même.
Mm. Ah oui.
C'est ça que je veux dire.
Oui.
Et on sent dans ton aventure, c'est flottant.
Ouais.
Et c'est flottant. On sent que c'est révélé au fil de l'écriture.
Mm-hmm.
Voilà. Et ça demeure une énigme.
Toujours.
Que tu n'arriverais pas à résoudre.
Non, mais je crois que j'ai pas envie de la résoudre en plus. J'ai envie de, je sais pas. Oui. Il y a ça et en même temps il y a. Je voulais. D'ailleurs, j'étais très content parce que c'est marqué dans la préface. Alors, je me souviens plus qui a écrit la préface, mais
par contre, celle-là, je l'ai lu la préface.
C'est marqué que ça reste une énigme. Et je me suis dit, c'est exactement ça. Ça doit rester une énigme.
Alors, est-ce que c'est pas, en fin de compte, on va pas faire de la phraseologie facile, et c'est pas la grande énigme d'être, en fin de compte.
Bah si.
Puisque on a le logos, c'est fait pour
oui,
être.
Oui.
Est-ce que c'est pas la grande énigme d'être ?
Si, tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Daniel ?
Enfin, pour moi, hein.
Oui, absolument.
Ouais.
Je suis bien d'accord.
À moins de faire des romans psychologiques, des romans comme ça, qui
n'ont ouais,
aucune
pas.
Forme d'intérêt, quoi.
Oui, ça m'intéresse pas.
C'est très drôle parce que je fais rarement des missions sur des romans. J'en ai fait une il y a quelques temps. Monique peut en témoigner d'ailleurs. Mm. Et l'éditeur Benoît Viro, du Nouvel Attila, à la fin, dit, alors qu'il publie des livres qui sont quand même des livres dans le circuit qui fonctionnent très bien, dit à la fin au micro, il dit, de toute façon, le plus grand livre, c'est Fantomas.
Ah oui.
Et là, je crois que ni Daniel, ni
oui.
toi, on ne peut pas aller contre, non ?
Ah bah non, enfin moi non.
Non.
Moi, le plus grand livre, non, parce que pour moi, les plus grands livres, ce sont les livres de Prévert. Mais sinon, je serais d'accord. Mais je ne pourrais jamais mettre quelqu'un devant Prévert. Ça, c'est quelque chose.
Ah oui,
tu restes derrière, quand même, accroché à devoir bien faire attention au
ouais.
terme, au feuilleton populaire.
Ah, mais, tu sais ce qu'on vient de terminer de regarder. Là, tu le sais pas, mais je te le dis. Mmh. On a terminé hier. On a regardé le cycle Les Vampires de Louis Feuillade.
Magnifique, oui, là, c'est
magnifique.
Magnifique.
Là, c'est grand, ça.
Ah, ouais,
ça, c'est magnifique.
Grand.
Et moi, j'adore ça. Et c'est mon rêve, et je me souviens d'une discussion que j'avais eue une fois avec Jean Rollin.
Tu m'as enlevé le verbe de la bouche, là.
Voilà, et Jean voilà. Rollin, on a passé une après-midi où on a refait le monde tous les deux parce qu'on voulait relancer, enfin, on savait que c'était pas possible, mais on voulait relancer des feuilletons. On voulait relancer des, comment ça s'appelle, ces petits, pas des illustrés, mais des petits fascicules, voilà, à 3 francs 6 sous, avec justement tous ces trucs populaires, genre Fantomas ou Les Vampires ou tout ça.
Il y a un festival vampire à la Cinémathèque.
Ouais.
Il n'y a pas un film de Jean Rollin programmé.
Oh putain.
Voilà. Et le plus drôle, pour ceux qui
partaient
là, on parlait du Père Lachaise, là. Mm-hmm. Alors Jean Rollin, je sais pas si tu as fait le pèlerinage, il a réussi, je ne sais pas comment, à être enterré dans le caveau napoléonien, dans un caveau du carré napoléonien.
C'est vrai ?
Ouais. C'est absolument génial, non ?
Oh là là. Oui, c'est formidable.
C'est absolument génial.
Mais si on parle de la mort, mais pourquoi ne pas en parler ? Au contraire, on parlait tout à l'heure de Maurice. Maurice Fanon, en bananard, est mort un 1er mai, et Léo est mort un 14 juillet. Ça aussi, c'est étonnant.
Ah ouais.
Mais bon.
Ouais.
Mais sinon, pour Amicitia, si je peux me permettre,
vas-y.
Pour moi, c'est pas un roman.
Ah, c'est pas du tout un
c'est
roman.
C'est pas du tout un
c'est
roman.
C'est une escroquerie, c'est pas du tout un roman.
Oui, c'est vrai, il y a du vrai dans ce que tu dis.
C'est pas du tout. D'ailleurs,
je suis un mauvais escroc parce
d'ailleurs,
que.
Annick Stevens est venue ici dans une très mauvaise émission, celle de Monique en coulisses. Et puis elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui dis, j'ai préfacé un roman.
Ouais.
Elle me dit, c'est drôle de préfacer un roman. Je lui dis, elle me dit, qu'est-ce que tu racontes ? Je lui dis, je te raconte que ce n'est pas un roman.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est ? Une dérive ?
Je ne sais pas. Oui, tu avais employé le mot dérive pour toi une fois et je suis assez d'accord en fait. J'aime bien ce mot. D'ailleurs, je ne mets jamais roman dans... Même Le Prédateur, il n'y a pas marqué roman. Il n'y a jamais marqué ça. Et je ne sais pas si je l'ai présenté comme un roman quand je te l'ai envoyé, mais en tout cas...
Non, tu ne m'as rien dit.
Non, je crois pas.
Ben, ça valait mieux. Hein.
Oui.
mais on arrive au même principe que ce n'est rien. Ce n'est rien, c'est quelque chose qui part comme ça et, on sait pas, et ça flotte, on ne sait pas où ça va.
Ça va nulle part.
Et en même temps, c'est pas, encore une fois, c'est d'une énigme non résolue.
C'est un non-livre.
Oui, un non-livre.
Ouais, c'est un non-livre.
Un non-livre, voilà.
C'est magnifique.
Et c'est pour ça que ça m'a... cette émission, j'ai tenu à la faire tous les deux. Il y a des choses qui passent.
Ah, il y a des correspondances.
Il y a beaucoup de correspondances. C'est très étrange, en fait.
Ouais.
Quelque part, il n'y aurait aucune raison, et pourtant.
Moi, c'est marrant, parce que quand j'ai lu Ce n'est rien, j'avais l'impression qu'on dialoguait.
Absolument.
Alors qu'on ne s'était pas connus.
Pareil avec Amicitia.
On ne se connaissait pas quand on écrivait chacun de notre côté, ouais. Notre truc. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression d'un dialogue. Hein. Ah ouais.
Alors, preuve à l'appui pour vous confondre. Ah. On va d'abord écouter une chanson. Maurice, on va faire Maurice Fanon, hein, d'accord ? Alors, on va s'offrir ça. Et après, je vais dire deux passages de vous et vous allez voir, il y a quand même... Je me demande qui a copié l'autre.
Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts, de tes doigts qui se mouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se délient. Si je porte à mon cou en souvenir de toi cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.
Ah, merci Monique au 01 43 71 89 40. Donc je vais lire deux passages pour prouver, pour en aboutir à vos impuissances mutuelles. Je pense dans une langue qui n'est pas la mienne. Je pense soudain dans une langue que je n'ai pas apprise, que je ne parle pas. Je ne comprends pas ce que je pense. Et pourtant, je pense, les mots se dévident, inconnus, incongrus, interrompus. Est-ce cela la conscience qu'on a de soi? Notre identité s'est réduite-t-elle à ce torrent de sons qui font ou sont censés faire sens jour et nuit, y compris jusque dans les rêves? Peut-on se représenter ce que nous serions sans eux? Comment se fait-il que le courant me traverse toujours immuable? Comment se fait-il que je ne sois pas la source de cette pensée, puisque je ne peux le faire a priori qu'avec un vocabulaire acquis, une construction intellectuelle maîtrisée? La pensée aurait-elle une autre origine? Existe-t-elle en dehors de nous, bien que profondément ancrée en nous? Nous la percevons comme un instrument à notre service, mais ne serait-ce pas elle, en définitive, qui nous utilise depuis le début des temps? Quoi qu'il en soit, je sais que je pense dans une langue qui n'est pas la mienne, même si je ne puis l'exprimer ni à moi ni aux autres. Eritesi abicitia. Ce n'est rien. Daniel Ziv. Chapitre 12e, funérailles. En 1871, durant la Commune, les derniers combats entre Versaillais et fédérés se déroulent à la fin de la semaine sanglante. Les fédérés prisonniers sont massacrés par les troupes versaillaises. Après les combats, on amène 148 prisonniers qui sont fusillés contre le mur qui porte désormais le nom. Il y avait peu de monde. Papageno, papapapa, papagena, papapapa, papageno, papapapa. Je ne vais pas poursuivre comme ça, mais je veux dire qu'à un moment donné, on a l'impression que le langage, alors qu'il est, alors c'est ça le grand mystère, d'un bout à l'autre de vos livres est très bien structuré, donc ce n'est pas rien, le langage est très bien structuré, mais à un moment donné, la parole vous échappe. Toi-même, tu inventes une langue inversée.
Oui, c'est voilà. Ça, oui.
Et puis là, brusquement, j'ai envie de dire que Daniel, Papageno, Papageno, passe dans une autre langue pendant, jusqu'au bout. Et ça finit, les couleurs s'apaisent, il n'y a pas de silence, il n'y a pas de bruit. Voilà. On a l'impression que tout ça est très bien structuré, et comme on dit vulgairement, à un moment donné, ça vous échappe. Vous perdez les pédales, ça vous échappe.
Ben, je ne sais pas si c'est échappé ou si c'est, au contraire, ouvrir une porte et laisser des choses sortir. C'est-à-dire que l'important, c'est... Enfin, quand je dis, tu dis laisser échapper, c'est comme si... Enfin, si ça nous échappait, c'est comme si on ne maîtrisait pas le truc. Là, c'est comme si ce n'était pas volontaire.
Non, tu t'exprimes sur le mot truc, parce que tout est là.
Ouais,
tout
pardon,
est là, tout est là. Est-ce que tu parles de ta pensée ou du langage? Parce que lorsque tu dis...
La pensée.
Je pense, c'est pas moi qui pense, etc. Lorsque tu racontes tout ça, tu le dis dans un langage très bien structuré.
Oui, tout à fait. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'était sur le fait de ça nous échappe. Moi, je pense qu'il y a quand même, c'est quand même, en tout cas, pour moi, volontaire. C'est-à-dire l'idée de dire, voilà, j'ouvre une porte et puis il y a des choses qui vont sortir. Voilà, mais c'est moi qui ouvre la porte.
Mais c'est pareil, ce n'est rien. Bon, d'abord, c'est un non-livre. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. J'en ai écrit une partie, mais à un moment donné, il m'échappe totalement, puisqu'il y a d'autres gens qui le prennent et qui se mettent à écrire à ma place. Bon, j'y peux rien, je peux pas les arrêter. Et ce que je voudrais faire avec ce livre, et d'ailleurs je suis en train d'en écrire une autre partie, c'est que des gens interviennent. Lorsque je discute avec le temps, par exemple, puisqu'on on a des longues discussions, le temps et moi, c'est que d'autres gens, que ce soit des gens qui écoutent la radio en ce moment, que ce soit des philosophes, des astrophysiciens, viennent discuter avec nous et avec le temps, et qu'ils se répondent les uns les autres, à travers le temps, entre guillemets, s'il existe. Et que ça dure pendant des années, que dans 10 ans, des gens continuent à écrire, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, puisqu'on appelle le temps des années, et que les gens se répondent, et que ce livre ne se termine jamais.
Mmh. Parmi la multitude de trahisons, Éric Tessier, et par rapport à la structure de ton livre, tu peux t'exprimer. Hein.
Non, mais je t'écoute. Non,
je dis que tu viens quand même, puisqu'on se connaît légèrement, tu viens quand même d'un certain monde, que le monde de la Beat Generation, des gens comme Burroughs, des gens comme Ginsberg, et là, ton langage...
Surtout Burroughs.
Surtout Burroughs.
Ah ouais, c'est
les garçons sauvages magnifiques.
Ah ouais, ça m'a flingué.
Non.
Tout à fait.
Ah ouais, quand j'ai
c'est très drôle. Attends, petite parenthèse. Vas-y. C'est qu'on tombe maintenant dans une génération de gens qui m'arrive de ressortir. Ça ne veut plus rien dire.
Ah ouais.
C'est-à-dire que j'ai fait une émission avec deux personnes, un Canadien qui a écrit un très beau livre d'ailleurs, et puis un type qui avait bien sous tout rapport. Ils n'ont rien à voir avec Burroughs. La Beat Generation, c'est complètement effacé.
Et il y a un livre de Burroughs, justement, qui se promène totalement à travers le temps.
Ouais, bien sûr.
C'est lequel
Le ticket qui explose.
Non, pas le ticket. Il y en a un autre aussi.
La machine molle. La magnifique. Oui. Donc tu es revenu à une langue que tu n'as jamais quittée d'ailleurs. Hein, qui est complètement structurée.
Oui, c'est ça
que je veux dire. Je veux dire que quand Robert Desnos, il avait 20 ans, une vingtaine d'années, part dans des sommeils inoptiques, son langage est au niveau syntaxique absolument parfait.
Oui.
C'est ça qui est prodigieux.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre ta pensée, ta pensée et le langage.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un truc que j'avais fait une rencontre.
Dieu.
T'as rencontré Dieu, Mary ?
Oui, oui, et elle était noire. Non, en fait, j'ai fait une rencontre, c'était littéraire, bien sûr, c'était... moi, c'est Burroughs qui m'a... avec Selby aussi, quand même, hein, ouais, Hubert Selby m'a beaucoup marqué. Et puis, donc, j'ai rencontré ces deux-là, et puis, un jour, je suis tombé sur Jean Genet. Et c'est là où je me suis dit, tiens, mais on peut aussi s'exprimer comme Jean Genet, c'est-à-dire que Jean Genet écrit magnifiquement bien. Et en même temps, c'est extrême.
Mais Jean Genet, tu peux te poser la question, comment un garçon sans éducation, il n'a pas d'éducation
manif français. Oui.
Et de plus, avec une science, quand il commence à faire du théâtre, une science du théâtre absolument remarquable.
Oui.
Où c'est qu'il a eu ça? Alors là, est-ce qu'il avait un nègre?
Non,
on
n'en
sait rien.
Je ne crois pas.
Mais pour revenir à Selby, Selby et Burroughs, ça appartient à ta première période.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Hein, quand tu étais encore fréquentable.
Oui, hein, c'est ça.
D'accord, parce que si on prend Le Prédateur, je ne veux pas te dénoncer ici, il y a quand même des scènes de trachéotomie à usage érotique, si je veux.
Oui, tout à fait, oui.
D'accord.
Oui, oui.
Vous avez lu Le Prédateur?
Non, il ne l'a pas lu. Non, moi, je vais te l'envoyer.
Pas... Oui, bon, d'accord.
Je vais te l'envoyer.
Très peu fréquentable à l'époque, d'accord. Bon, là-dedans, tu as quand même tenu, au niveau de la respectabilité, je tiens à te le dire, au niveau de l'amitié de sien, à mettre deux petites choses. C'est juste après là, cette magnifique préface.
C'est l'avant-propos.
Alors, bien qu'Amicitia soit une fiction, les faits rapportés dans le chapitre 9 reposent sur des événements réels. Le lecteur qui désirerait en savoir plus lira avec profit l'excellent Les bouts de bois de Dieu d'Ousmane Sembene.
Ouais.
Et après, on croise de même un personnage ayant réellement existé, Marius Jacob, un anarchiste de la Belle Époque, Alexandre Marius Jacob, d'Alain Sergent, de cet anarchiste qui a inspiré les personnages d'Arsène Lupin à Maurice Leblanc. On en apprendra plus aux lecteurs intéressés. On va écouter une chanson et puis on va dériver là-dessus.
Ok.
Sur l'écriture et l'histoire.
Ok.
Sur l'écriture et le politique.
Ah oui, tout à fait.
On est sur Radio Libertaire. Hein.
Mais tout à fait. Mais
la radio écuménique. Hein,
en plus, mon Dieu. Ce livre, pour moi, est un livre politique.
Bien sûr. Monique.
C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire aux marins, aux Anglais, je vais vous le montrer, mon Pas-de-Calais. Mais il arrive certains soirs de dire je t'aime en étranger, et dans le fond de la mémoire, une voix répond en français. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Du lundi au samedi, tourneur à Saint-Denis, et je t'aime. Une fois par semaine, amoureux de Paris, sur la Seine. Et depuis que tu m'aimes, amoureux de tes yeux, sans problème. Je ne suis pas marin, pourtant je viens de loin, et je t'aime. Je ne suis pas anglais, et pourtant tu me plais, je t'emmène. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est demain, il faut qu'on s'aime bien, pour hier, pour demain. C'est pourtant pas la mer à boire, disait la fille de Calais, de dire je t'aime un Anglais, un marin du Pas-de-Calais. Mais il arrive qu'un beau soir, on dise je t'aime sans y penser. Et ça fait mal à n'y pas croire, cette voix qui vient du passé. Je m'appelle Martin, Jean-Marie de Pantin, et je t'aime. Il s'appelait Martin, Jean-Marie de Pantin, et tu l'aimes. L'étais plus qu'un marin quand t'étais dans ses mains, car tu l'aimes. L'étais plus qu'un Anglais, le Pas-de-Calais, ça ne vaut pas la Seine. Il n'y a jamais loin d'aujourd'hui à demain, quand on s'aime. Quand tu verras Pantin, Calais ne sera plus qu'un baptême. Hier c'était hier, et demain c'est demain. Faut que tu l'aimes bien, Jean-Marie de Pantin.
Et vos yeux. 01 43 71 89 40, toujours sur Radio Libertaire. Oui, ça fout le blues. Hein, cette chose, hein, c'est, ouais, il a quelque chose en plus, c'est-à-dire au niveau de la voix, au niveau du texte. Des fois, c'est au niveau du. C'est même pas sensique.
Ouais.
On écoute bien, il est aux limites, il se tient aux limites du sensique, des fois.
Et au début, on parle de sa voix. Au début, Maurice ne voulait pas chanter parce que sa voix était catastrophique. Il écrivait pour les autres. Et les gens lui ont dit mais si, il faut que tu te mettes à chanter aussi. Et voilà, c'est la fin. Mais au départ, sa voix était un problème, apparemment.
Toi, tu me disais que j'étais pas effectivement.
Ah, t'es revenu, tu reviens à la charge maintenant.
Très longtemps, pas branché sur la chanson française, jusqu'au jour où j'ai réalisé une chose, c'est que tu parlais de blues et que j'aimais le blues et que je me suis dit, ça, c'est la même chose en fait. Pour moi, c'est du blues, mais du blues français. Enfin, c'est l'équivalent, je veux dire. C'est comme il. Voilà, parce que ça raconte les mêmes choses, en fait.
Quand on écoute Fréhel, c'est du blues. Hein.
Fréhel, oui, tout à fait. Des gens comme ça, voilà. Hein. Voilà. Bon, et ça, j'ai. Malgré tout. Ça finit par rentrer.
Encore une bonne vingtaine d'années, on va y arriver, Eric.
Ah oui, ben voilà.
Pour toi, c'est du blues, et pour moi, c'est du topical folk.
Ah.
Pete Seeger, Woody Guthrie, Tom Paxton et compagnie.
Ah bah oui. Je te rejoins aussi, oui, tout à fait, oui.
Ça vous inspire, Frantz Fanon?
Oui,
bien sûr.
Voilà. Avec Maurice, bien sûr.
Non, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit, d'ailleurs. Catapultage.
Oui, Frantz Fanon, bien sûr.
Histoire, donc il naît à la Martinique, il va s'engager dans les... Il va débarquer, il va du premier débarquement, donc un noir qui débarque et il n'est pas très bien traité, il a 19 ans. Vous savez qu'il a fini avec, en soutenant la révolution algérienne, hein, il avait même été un officiel de la révolution algérienne, mais à 19 ans, 20 ans, il se retrouve là-bas avec l'armée française dans l'Est. Et il va être décoré pour son mérite. Et qui lui remet la décoration? C'est le général Salon.
Oh putain!
J'ai lu ça dernièrement, c'est fabuleux.
Ouais.
Le type qui 10 ans plus tard, un peu 10 ans ou 15 ans plus tard, va s'engager, va soutenir le FLN, et le type qui le décore, c'est le général Salan.
Ouais.
Dans
le même genre d'idée, j'ai retrouvé chez mon père, quand il est décédé, un livre qui c'est les mémoires de Bijard. Et j'ouvre au hasard, comme ça, avant de vouloir le jeter, et je vois, je n'ai jamais connu de combattants plus méritants et plus courageux que les anarchistes espagnols qui étaient sous mes ordres. Et il commence à dire, on a réussi à tenir un village contre les Allemands parce que les Espagnols, ils n'ont jamais voulu lâcher et ils n'ont pas reculé d'un pas. Et je me dis, bizarre, c'est quand même quelque chose.
Oui.
Hein?
Et ben ça c'est le phénomène qu'on a reconnu bien plus tard. C'est le phénomène qu'on appelle la névée.
Oui, la névée.
C'est ceux-là. Qui sont rentrés les premiers à Paris avec le général Leclerc. Et ça a été caché pendant des années et des années. Et des
oui,
années, et des
j'ai
années.
Même lu qu'on avait refait des images d'histoire, qu'on avait refilmé des entrées pour mettre des soldats blancs. Parce qu'il y avait aussi des noirs dedans, donc
parce qu'il la fout mal.
Ça la fout mal.
Ça la fout mal.
Des noirs et des moricots.
Ça la fout mal. Alors, ce n'est rien, l'amitié, là. Est-ce que tout ça, ce domaine où un non-livre et puis quelque chose qui part dans une dérive, ça échappe aux politiques et à l'histoire?
Ah bah non.
Pas du tout.
Ah bah non, au contraire.
C'est l'inverse, oui.
Oui, hein.
C'est l'inverse.
Ah oui.
C'est pour moi que vous allez convaincre. D'accord. Voilà.
Oui, tu parlais de ce petit avant-propos que j'ai mis.
Quand tu me dis qu'Amicizia est un livre politique, mais bien sûr.
Oui, bien sûr, et je voulais absolument... Alors, c'était comment arriver à intégrer des éléments... par exemple, je parle des bouts de bois de Dieu de Samben, Ousmane Samben, c'est parce que quand j'ai eu le bouquin, j'étais sur le cul, quoi. C'était... ça raconte l'histoire d'une grève, hein. En Afrique, au Sénégal.
En quelle année?
C'est juste après la guerre.
C'est ça,
44. Et alors, en fait, les ouvriers noirs veulent les mêmes droits que les ouvriers français, évidemment, ils les ont pas. Et alors, Sam Ben raconte que la ville est divisée, la ville, c'est Dakar, elle est divisée en deux. Il y a le quartier des colons, où là, il y a tout le confort, et il y a la ville indigène. Alors c'est déjà formidable parce que tu dis sa ville indigène, bon, ils sont chez eux quoi, et eux ils ont pas le tout à l'égout, ils ont rien, et ils ont des fontaines où ils vont boire, ils vont chercher l'eau, ils vont puiser l'eau, et comme ils étaient en grève, les colons, l'administration coloniale fermait les fontaines de façon à ce que les gens, les Africains n'aient pas d'eau. Alors évidemment, t'imagines en plein été, et puis même en hiver, de toute façon, sans eau, on ne peut pas vivre. Et ils ouvraient de temps en temps, pendant 5 minutes, mais de façon totalement aléatoire. Et ce qui fait que les femmes et les enfants passaient leur journée à ces fontaines, à guetter que ça coule, pour pouvoir avoir un petit peu d'eau. Et bon, il y a plein d'exemples comme ça dans son bouquin. Alors moi j'avais envie de parler de ça, de ce genre de choses, et je me disais comment je vais réussir à intégrer ça dans Amikitia qui parle du temps. Et je suis parti sur des histoires en fait d'une gare avec des affiches, et chaque affiche en fait ouvre une fenêtre et raconte une histoire. Et c'est pour ça que on est dans un endroit un peu imaginaire, c'est les Carpates françaises, mais en fait c'est pas loin de chez toi, hein, Daniel. C'est en fait le pour moi la ville, c'est Nantua.
Oui.
Voilà. Et j'ai changé le nom, j'ai changé tout, mais je veux dire, on se retrouve de Nantua, on part en Afrique, et là, on parle de ça. D'ailleurs, il y a un personnage africain, et ça fait aussi partie de son passé. C'est aussi montrer la France actuelle, qui est une France où il y a des Noirs, et tant mieux. Je veux dire, pour moi, tout ce qui est autre, c'est une richesse supplémentaire.
Saint-Exupéry, mon frère, si tu diffères de moi au lieu de m'appauvrir, tu m'enrichis.
Exactement.
Bien sûr.
Ouais.
Et c'est le grand apport des surréalistes d'avoir très tôt expliqué que l'imaginaire ouais, était politique. Ouais. C'était indissociable, le politique, on est indissociable, il est politique. Mais Daniel Zee, vous, puisque c'est récurrent dans vos écrits, dans les deux livres que j'ai lus, votre livre de poèmes, et ce n'est rien, là, il y a le phénomène des camps qui est récurrent chez vous.
Oui.
Hein?
Oui, il y a le temps qui est récurrent et les camps qui sont récurrents. Mmh. Parce qu'on peut se demander comment l'être humain peut en arriver à de telles extrémités. Et quelque part, ça rejoint le temps, ça rejoint beaucoup de choses. Dans une autre partie de Ce n'est rien, qui est sur laquelle je travaille, ça sera sur l'argent. C'est pareil, tout ça se rejoint. Mmh. C'est-à-dire le temps, dans cette partie de Ce n'est rien, je ne dis pas la première parce qu'il n'y a pas de première, de deuxième partie, ou de troisième, quoi que ce soit. Le temps, en fait, n'existe peut-être pas. Je ne suis pas le seul à le penser. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis que peut-être il n'existe pas. Dès qu'on s'intéresse à la quatrième, à la cinquième dimension, et aux dimensions qui suivent, et qui existent, ça on le sait, on se rend compte de la manière dont nous sommes limités, en fait, dans notre manière de penser. Nous ne pouvons pas voir au-delà de nos trois dimensions. Il y avait un livre au 19e siècle qui est absolument merveilleux, qui se passe dans deux dimensions. Et les gens qui sont dans les deux dimensions ne peuvent pas atteindre notre monde. Ah, c'est... pas Lapland, mais... le nom va me revenir, qui est un livre merveilleux. Et de la même façon, nous ne pouvons pas atteindre la quatrième, la cinquième dimension. Certains disent le temps est la quatrième dimension, mais si le temps n'existe pas, ce n'est pas possible. Et de toute manière, le temps n'est pas la quatrième dimension. C'est quelque chose... C'est à cause de ça, peut-être, qu'on a créé Dieu.
Peut-être.
L'idée de Dieu, en fait, pourquoi? Parce qu'il faut qu'on trouve une raison à tout ce qui existe. Nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nous pouvons comprendre. On ne peut pas comprendre la quatrième, la cinquième dimension, donc il fallait créer quelque chose, on a créé Dieu.
Peut-être qu'un Dieu m'a condamné au temps, cette longue illusion. Borges.
Borges.
La classe, hein,
Borges.
Hein, ça a la classe, Borges. Hein. On va... Une mission va vous incomber après la chanson qu'on va écouter, c'est de parler d'André Verdet. Ça vous va ?
Avec grand plaisir.
D'accord. Merci Monique.
Rien. Allez, viens, mon amour. Je t'emmène faire un tour sur le zinc. À petits coups de bière, à petits coups de vin, nous boirons la rosée de ce petit matin pour noyer ton chagrin. Je t'emmène en croisière, en langues étrangères, comme font les rupins. Ma lady, t'es ma lady, mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma balade des Anglais. Viens avec moi, mon amour, voir le jour se lever sur le zinc. Moi le soleil et le rouquin, on glissera une bague d'or fin à chacun de tes doigts. Viens ma peau de chagrin, je t'emmène on the rocks jusqu'à l'aube on the clocks, comme chez les rupins. Ma lady, t'es ma lady, mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma balade des Anglais. Rien n'est plus doux, mon amour, qu'un petit verre de velours sur le zinc. À petits coups de lèvres, à petits coups de cœur, nous irons jusqu'au bout de ce petit bonheur. Tu seras mon gratin, mon luxe, ma vie chère, mes lèvres sur tes mains, comme font les rupins. Ma lady, t'es ma lady, mon vison, ma cascade de rubis. Ma lady, ma petite lady, ma chanson, ma balade des Anglais. Ma lady.
Eh bien, sur Radio Libertaire, toujours avec Maurice Fano, 01 43 71 89 40. Oui, André Verdet.
André Verdet, c'est une histoire aussi très surprenante. Un jour, j'avais un vieil ami, Robert Ostier, qui savait que j'aimais les livres, et qui me dit, écoute, est-ce que tu peux me retrouver un livre d'André Verdet qui s'appelle « La nuit n'est pas la nuit ». C'est un livre qu'il a écrit en sortant des camps de concentration, et il voulait le trouver pour la fille d'André. Je cherche ce livre, je ne le trouve pas. Mais je tombe sur des tas de livres d'André Verdet. Je me dis, mais c'est qui ? Comment ça se fait que je ne connais pas cet André Verdet ? Je tombe même sur des livres qu'il a écrits avec Jacques Prévert.
Ah oui, ça c'est
Histoire, par exemple. C'est à Saint-Paul-de-Vence. C'est Prévert-Verdet. Je commence à être surpris. J'ai des livres. Bon, je lui écris en disant, j'aimerais bien vous rencontrer. Pas de réponse. Bon, un jour, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Je vois un monsieur à cheveux blancs qui passe. Je vais le voir, je lui dis, vous êtes André Verdet. Il me dit, oui, vous êtes Daniel Zive. Déjà, mystère complet. Il m'avait répondu, mais il était en Italie à l'époque, j'avais pas reçu sa lettre, ma boîte à lettres avait été défoncée, ou je sais pas trop quoi. Et on s'est mis à discuter, et on est devenus assez amis. Et vraiment, vraiment... Alors le plus drôle, c'est que donc le livre que je cherchais, c'est pour la fille d'André Verdet, mais il a jamais eu de fille. Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est compliqué.
C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Et donc, André, donc, j'ai fait plusieurs livres avec lui. C'était un type merveilleux. Il a écrit plus de 260 livres. Certains avec Prévert, bien sûr. C'était un peintre aussi. C'est Picasso qui lui a dit de se mettre à la peinture. Un jour, Picasso voit son poignet avec... le numéro d'écrit quand il était sorti des camps, et Picasso a embrassé sa main. Mmh. Et ensuite, André lui a fait un bouquet de fleurs. Et Picasso a dit, écoute, ça, il faut que tu deviennes peintre. Et André est devenu peintre à cause de Picasso. Et sculpteur aussi. Astrophysicien aussi, donc très copain justement avec mon copain Jean-Claude Péquer, ouais. Que j'ai rencontré plus tard tout à fait par hasard.
Ça il a un musée à Cortes-sur-Ciel, André Verdet.
Oui, absolument.
D'accord.
Absolument.
Oui. Vous devriez le Cortes-sur-Ciel, Ritessier.
Et donc, alors, André, bon, j'ai fait deux livres avec lui. Il avait aussi un orchestre de jazz, mmh. Absolument remarquable. Et, il faut le voir sur scène à 84, 85 ans, en train de chanter.
Ah ouais ?
Ah oui, mais vraiment des choses tout à fait étonnantes. Ouais. Et donc, bon, on a fait deux livres, j'ai fait un documentaire sur André aussi. Et c'est très drôle, c'est un documentaire que j'ai coproduit avec la Suède, avec l'Italie, avec l'Espagne, mais en France, personne. J'ai trouvé une petite télévision locale. Chez Arte, on m'a dit, c'est passionnant, mais il n'est pas assez connu, on ne peut rien faire. J'aurais dit, bah, c'est justement parce qu'il n'est pas assez connu, mais bon, non, ça ne les intéressait pas, il n'était pas assez connu. Donc ça a été coproduit avec des chaînes étrangères uniquement. Voilà,
mais en quelle année André Verdet ?
Il est mort il y a 12 ans maintenant, je crois.
Il avait un âge canonique, non ?
Il avait... Non, il devait avoir 92, ah bon, 91, 92 ans, beaucoup de mémoire.
Ça, d'accord.
Pas plus. C'est, mais et il est mort très rapidement, en fait, André. Il avait aussi... Il était coureur automobile aussi, il a fait des tas de choses. C'était un copain de Desnos, puisqu'on parlait de Desnos tout à l'heure. Il s'est fait arrêter, il s'est retrouvé dans les camps parce qu'il faisait dérailler les trains, c'était assez mal vu à l'époque.
Le Roger Vaillant aussi, hein, parenthèse. Hein. Roger Vaillant faisait dérailler les trains.
Et Desnos, donc, ils sont partis à Auschwitz ensemble. Ils étaient à Drancy, ils sont partis de Drancy dans le même convoi, André Desnos. Mais à côté de ça, c'est un auteur extraordinaire, je dis plus de 260 livres. Il n'est pas connu. Bon, quand Picasso a dit « Tu n'es pas connu parce que tu fais partie d'un autre âge. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, là, tu seras reconnu. Et tu fais trop de choses à la fois aussi. Mmh. » C'est ce que lui a dit Picasso. Et en même temps, une autre raison, une raison, je ne sais pas, pour laquelle il n'est pas connu, c'est qu'il a toujours aidé les autres. Il a fait connaître des tas de gens de son côté. Lui-même, il a fait connaître des tas de gens. Il a écrit des livres sur énormément d'auteurs et les a fait connaître. Et il n'y a jamais eu, en fait, de retour, quelque part. C'est assez étrange.
Tu voulais saluer quelqu'un aussi, je pense, aussi. Tu sais plus ce que tu dis, Eric Tessier.
Oui, si, non.
Non, mais on écoutait. Non,
profite-en. Oui, j'étais passionné.
D'accord, c'est bien, je t'ai vu.
Oui.
Et donc, tu voulais saluer quelqu'un.
Oui.
Je crois Iter. Tu m'as dit qu'il faut parler de Pierre.
Oui, Pierre Barachan.
D'accord. Passez-moi le livre pendant ce temps-là, ça me fera plaisir.
Absolument, je veux absolument...
Pierre Barachan d'abord, oui.
Absolument parler de Pierre, Pierre Barachan.
Et Émilie.
Et Émilie.
Panisset
Barachan. Pierre, je le connais depuis très longtemps. On ne s'est pas vu souvent, assez bizarrement, mais on a toujours correspondu. Voilà, c'est un type qui écrit des bouquins formidables et il a toujours galéré quoi. C'est hallucinant de voir la qualité de ce qu'il fait et de voir que on est dans une période, je crois, où avant il y avait des critiques bonnes ou mauvaises, ouais. Mais maintenant il y a même plus de mauvaises critiques, c'est-à-dire que c'est soit des très bonnes parce que tu es très connu, sinon on parle pas de toi. Tu peux, t'auras même pas une mauvaise critique, on parlera pas de toi.
Oui.
Je pense que...
Il y a une occultation de la littérature, bien sûr.
Mais complètement. Fait, bien sûr. Complètement. Et Pierre, c'est un type qu'il faut absolument pousser. Je pense que c'est pas Daniel qui va dire l'inverse.
Petite parenthèse.
Oui, vas-y.
Tu prends les années 30, tu prends les années 20, tu prends les années 50, tu regardes ce qu'ont été les auteurs en vogue de l'époque. Ils ont publié, ça a été publié, tu avais des lecteurs. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? C'est à tomber des mains.
Tout à fait.
C'est à tomber des mains. T'as des prix Goncourt, hein, des prix Goncourt. Un homme se penche. C'est le livre qui a été. Excuse-moi. Déjà, le titre est complètement con. Un homme se penche, son passé. C'était le livre le plus vendu. Mais c'est, ça vous tombe des mains. Et même des gens qu'on nous a glorifiés, qui seraient peut-être moins, entre guillemets, même du Hervé Bazin, par exemple, Paul Guimard, j'ai essayé de relire un Paul Guimard il n'y a pas longtemps, parce que le thème m'intéressait, c'est l'ironie des choses. Voilà, c'est illisible, te tombe des mains. Vas-y.
Je m'étais amusé à lire la liste des prix Goncourt, et c'est vrai que j'étais très surpris de voir que j'en connais... Si j'en connaissais un tiers, c'était quand même extraordinaire.
Oui, mais il faut voir que le langage, ce qu'ils produisent, c'est, ça correspond à l'ère du temps, et ça s'efface aussi rapidement.
Ouais.
Voilà.
J'avais envie de lire, alors ça ne va pas être facile.
Ça ne va pas être facile,
on ne voit pas très bien, mais c'est un extrait de « Demain, c'est pour toujours » de Pierre Barachan. C'est très court, rassure. C'est un livre sur, je dirais, sur l'amour, sur l'absence, sur la mort, sur le deuil. Et moi, j'ai été profondément remué par ce livre, ce qui n'est pas la première fois avec Pierre. Et donc, je lis un extrait, donc un peu dans la pénombre, mais je pense que je vais m'en sortir.
Ça
voilà.
Fait un peu boîte de nuit.
Ça fait un peu boîte de nuit là, ouais. On s'en rend pas compte à la radio, mais enfin, les auditeurs s'en rendent pas compte, mais bon. En faisant le grand ménage, j'avais retrouvé un coupe-cigare qu'on m'avait offert lors d'un de mes anniversaires, en même temps qu'une boîte de 24 Havanes. Une merveille de précision et de robustesse en acier nickelé. J'avais payé pour savoir ce qu'il en coûtait d'atermoiement. Soyez patients, nous y reviendrons. Je n'ai donc pas hésité. J'ai couru à la pharmacie, fait quelques emplettes, puis, avec les gestes précis d'un boucher, j'en ai éprouvé le fil, l'ai passé à la flamme et arrosé d'alcool. Je l'ai ensuite posé verticalement sur le rebord de l'évier, y ai introduit mon petit doigt gauche jusqu'à la jointure de la deuxième phalange. Et, après avoir bloqué ma respiration, j'ai frappé un coup sec du plat de mon autre main. Ce fut si facile. Le sang s'est mis à gicler, moins pourtant que je ne l'aurais imaginé. Mais j'ai eu presque aussi mal qu'on pouvait s'y attendre. J'ai vacillé et tout de suite ouvert le robinet d'eau froide. L'évier s'est teinté de rouge avec des taches plus sombres sur les bords qui s'écoulaient vers le bas et que les remous venaient lécher puis emportaient vers le siphon. La douleur s'est accentuée. J'ai serré les dents, des larmes me brillaient des yeux. Levé la tête au plafond, je me retenais de hurler, baissé le nez. Ma phalange, entraînée par le courant, avait glissé dans la petite grille d'acier qui filtrait les saletés et tournait et sautait comme si elle avait été douée d'une vie propre. Je l'ai observée un long moment, me concentrant sur ce lambeau de chair et d'os qui avait été une partie de moi, jusqu'à ce que la douleur devienne supportable et que mes nerfs, tendus comme des arcs, se relâchent enfin. Ce n'était rien comme je l'avais pensé. Hélène m'avait consacré les 20 dernières années de sa vie, ce qui en faisait les meilleures de la mienne. Ne pouvais-je lui faire présent d'un petit morceau de mon corps ? Voilà.
Ça, c'est
moi, quand j'ai lu ça, j'ai été, encore une fois, tellement touché.
Tu te rappelles le titre, donc
Oui, alors c'est « Demain, c'est pour toujours », c'est de Pierre Barachan. C'est évidemment chez Z4 Éditions.
Okay.
Et le livre, alors là, c'est le passage peut-être le plus frappant. Ouais. Mais je veux dire, après, il y a... Tout est d'une qualité littéraire extraordinaire. Et je voulais juste citer, là je ne vais pas le lire, mais je voulais juste citer « De poussière et de vent, d'Émilie Panisset-Barachon.
Remarquable. Qui est un livre tout à fait remarquable.
Voilà. Aussi, oui. Voilà.
Mais... Puisqu'il a pu lire un petit extrait de
Très
Pierre,
bien. Ouais,
mais... j'aimerais bien moi lire comme un petit
vous,
extrait. Prenez,
faites ah, comme chez gentil, vous, ben, bravo, ben, bravo. Bon, on arrive, on s'installe sur Radio Libertaire 89.4, et puis allez.
On se croirait dans une radio libertaire.
C'est pas possible. Non, j'aimerais bien lire un passage d'un livre de Jean-Claude Péquer. Jean-Claude qui a aujourd'hui, qui va sur ses 98 ans, qui est en pleine forme, en tout cas... qui a fait d'ailleurs la préface de Ce n'est rien, qui a fait aussi la préface d'un autre livre que j'ai publié, que tu connais peut-être, c'est Les Chants de la Commune. Donc, que j'ai publié, et il y a une préface de Jean-Claude. Et Jean-Claude, en fait, en 1944, il avait 18 ans, et ses parents étaient arrêtés pour amener dans les camps de concentration, bien entendu, dont ils ne sont jamais revenus, le jour de ses 18 ans. Et il a écrit un livre, Lamento, qui reprend, en fait, il a mis 50 ans avant de pouvoir commencer à écrire ses poèmes, justement, sur ses parents. Et 50 ans après, il a fait ce livre. Et je voudrais lire un des poèmes. C'est un livre qu'on a traduit en espéranto, et un ami en Italie a fait une traduction en italien et en anglais aussi. Donc c'est un des poèmes. Elle avait ce sourire que je n'ai plus revu, pour un enfant tout pâle et pour ses avenirs blonds. Elle avait ce sourire pour la fille bancale, pour l'élève assidu, pour l'élève ébloui, elle avait ce sourire pour la vie, pour la vie. Elle avait ce sourire, même pour ses bourreaux, surtout pour ses bourreaux, surtout devant sa mort. Dans le wagon sinistre, elle avait ce sourire, et dans la chambre à gaz, elle avait ce sourire, comme un soleil rêvé, crispé devant la mort. Elle avait ce sourire que je n'ai plus revu. Hélas, si j'avais su, elle aura ce sourire, à jamais, à jamais. Et lui riait de tout, à la fille qui passe, à l'enfant blond souvent, à la vie qui s'en va. Son rire éclatait sur la lande, quand plus tard j'y suis revenu, il n'était plus là, il n'était plus rien. Son rire éclatait sur la plage, dans l'éblouissement des eaux qui s'envolaient. Son rire éclatait trop, pour un oui, pour un non. Il éclate toujours pour l'éternel jamais de sa vie étouffée dans un camp de là-bas, dans un camp de poussière, dans un camp de grisaille, dans un camp de la mort. Je n'aime plus entendre rire. Il était mon père, elle était ma mère. Je ne suis pas fier de la mort subite qui les a gommés. Je ne suis pas fier. Mais puis-je oublier ? Ils auraient pu vivre. Leur sourire et leur rire auraient pu se tourner vers d'autres enfants blonds. Pourrait-on oublier ce rire et ce sourire ? Il me reste que le brouillard. Et tout le livre est...
Ah ouais, de cette force.
Ne peut... Voilà. Ça, c'est Jean-Claude Péquer.
Ce que je trouve important là, dans ça, c'est que finalement, il y a quoi ? Il y a une dizaine de poèmes.
Oui.
Et ça vaut des 600 pages oui. qu'on peut lire.
C'est tout le mystère de la poésie. Oui,
exactement.
Lorsque ouais. Borges dit peut-être qu'un dieu m'a condamné au temps, cette longue illusion, tu prends toutes les productions philosophiques pendant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, il a résumé le problème. Hein.
Ouais.
Il n'y a aucun problème. Oui,
ouais.
C'est ce qu'a de dire. Il n'y a aucun problème. Il a bien visé.
Ouais. Ouais.
Ce que j'ai oublié de dire à propos de Jean-Claude, c'est que Jean-Claude est quand même membre de l'Académie, astrophysicien.
Oui, c'est un
des plus grands astrophysiciens français. C'est toujours d'ailleurs. Voilà. C'est quelqu'un de très étonnant.
Pour venir sur le sujet, si j'arrive aussi à lire, j'en sais rien, mais vous devez le faire de mémoire.
Si tu arrives à t'exprimer dans ton émission.
dans une boîte de nuit. Non, c'est André Ardelet publie donc le seuil du jardin et il va faire un service de presse. Il envoie à André Breton avec une dédicace. Breton va lui répondre tout de suite. Il lui dit, vous savez, moi je lis jamais de romans. Les romans s'empilent sur ma table et ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais là, pof, je suis tombé sur le vôtre et c'est à peu près la seule chose que je peux lire. Bon, pour te dire que par rapport à tous les textes que Breton pouvait arriver, les choses romancées, il y a, je ne sais pas qui l'a lu, je ne sais pas, il y a 150 pages. C'est un tout petit livre, le seuil du jardin, hein. Là, mais ça,
grand livre.
Oui, mais très grand livre.
Oui, ben voilà.
Est-ce que tu l'as lu, Eric ?
Non, je ne l'ai pas lu.
Tu devrais le lire.
Ah ben, je vais le lire.
Parce qu'après, tu écriras de choses intéressantes, peut-être, tu verras.
Oh bah je vais le recopier alors.
C'est l'histoire de la machine à vivre ses rêves. Hein.
Voilà. Ah oui, ça vous concerne tous les deux. Ah, oui, ça vous concerne tous les deux. On est en plein dedans, en plein dans le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que
le
seuil du jardin, le seuil. Mais ce qui est très intéressant, c'est le mot seuil. C'est-à-dire, il se tient sur le seuil. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, aux lisières de.
Oui. Voilà.
Et quand il va trop loin, ça se termine bien mal.
Très bien, très mal.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est tout le mystère, bien sûr. C'est magnifique, le seuil
ouais.
du jardin.
Ouais.
Voilà. Mais en te lisant, on va revenir, là, avant de récapituler, on va revenir. C'est vrai que moi, en préparant cette émission, j'ai quand même préparé cette émission au moins 5 minutes. Je tiens à te le dire.
Hein? Oh la vache.
Je tiens à te le dire, Éric
Tessier.
Je suis sérieux. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas raconter ce livre. Il ne se raconte pas.
Non.
Il ne passe pas par les critères normaux d'analyse. Si je remets à la psychanalyse, on va commencer par Lacan, on ne va jamais y arriver. Si j'arrive à la sociologie, on ne va jamais y arriver.
Ouais,
hein?
Ouais.
Mais il passe par le langage.
Ouais, ouais. Ah ouais, 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 bien sûr.
Il passe par le langage.
Ouais.
Hein?
Bah ouais, je sais pas quoi dire.
Non, non, mais c'est ça. Non, non,
oui,
non,
c'est vrai, ça
fait partie de ces livres simplement parfaits. On peut rien dire. Je veux dire, on lit ce livre, on se dit, ben, c'est parfait.
Ah ouais,
c'est merveilleux.
Dans tout ce livre, il y a quand même une phrase à sauver, c'est la dernière.
Ouais.
Repu, Amicitia sombre dans une sieste réparatrice.
Ah oui, oui.
Voilà.
Ouais.
Tu aurais même tu peux te contenter de mettre ça en plein milieu d'une page.
J'aurais pu.
Ça t'aurait beaucoup été fatigant. Ça aurait été moins fatigant,
oui.
Daniel.
Tout à voilà. fait.
Ok, on va récapituler. Est-ce que c'est encore trouvable, Pauline Ultime, par exemple?
Je sais pas. Je sais pas si c'est encore trouvable. Je crois, mais j'en suis pas sûr.
Tu veux dire en librairie?
Ouais.
Tu ne te souviens pas où tu l'as placé? Tu l'as pas
envie? Non, c'est pas ça. Je sais pas s'il est encore trouvable ou pas. Ça fait partie des choses dont je m'occupe. Comme bon, on en parlait en début d'émission, mais hors antenne, il y a des choses qui nous échappent des fois avec l'informatique. Toi comme moi, on s'est aperçu qu'on avait au moins un livre chacun qui a été republié, réédité. On n'est même pas au courant.
Hein,
on ne sait même pas qui l'a réédité.
Ce qui est très sympathique.
D'ailleurs, voilà.
C'est très sympathique.
On ne sait pas moi.
Un jour, on est venu par téléphone ou par voie de mail. Et on dit tiens, il y a ça.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
C'est... Bon, on va récapituler tout ça. Alors, on reste 5 minutes, on y va. On y va.
Un des derniers livres qu'on a publié est un livre absolument extraordinaire.
Ah oui,
c'est SOS pour la paix de Gérard Le Chat. Je ne veux pas parler des livres qu'on publie, parce que sinon je devrais parler de tous les auteurs, parce que évidemment tous les livres sont admirables. Mais SOS pour la paix est écrit par Gérard Le Chat, qui est libertaire, bien entendu. C'est un livre très 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 profond, qui explique en fin de compte le pourquoi des dernières guerres. C'est un livre...
Remarquable,
c'est le livre, je dirais, quasiment de toute une vie. Gérard a écrit d'autres livres aussi, bien entendu, mais celui-là, c'est vraiment le plus important, je pense, qu'il ait jamais fait. Ça s'appelle SOS pour la paix. Et c'est vraiment une explication des guerres qui est absolument brillante. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, moi, je suis entièrement d'accord. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de le finir, parce que d'abord, c'est une somme. Et alors, il y a une masse d'informations que moi, il y a plein de trucs que des choses peut-être des fois qu'on soupçonne, mais là, cette fois-ci, là, il y a les faits, quoi.
Les objecteurs de conscience aussi,
qu'il
y a eu pendant les guerres, et ce qui est arrivé à ces objecteurs de conscience, qui étaient des gens souvent extrêmement brillants.
Oui.
Et
c'est un livre, je disais à Daniel que je vais terminer, puisque j'ai pas eu le temps avant l'émission, mais je vais le terminer, mais en plus je vais le relire, ça c'est clair, parce que il y a tellement de choses que heureusement qu'il existe des livres comme ça. C'est vraiment des livres de référence pour moi.
Donc on peut retrouver
c'est un livre
tout
de référence.
Ça sur le site.
Sur le site, bien entendu. Il suffit de taper Z4, le chiffre 4, édition. Le site lui-même, c'est www.z4edition.fr. Voilà. Mais en tapant Z4 édition, on tombe a priori tout simplement sur le site.
Très facilement.
Relire André Ardelais.
Oui, alors j'ai noté.
Le seuil du jardin, tu ne reviendras sur Radio Libertaire qu'une fois que tu l'auras lu.
Interrogation écrite. Des archers.
Le parc des archers,
et
magnifique.
Le parc des archers qui est remarquable.
Lire, bah, ce n'est rien. Ça date de quand, ce n'est rien, tiens ?
Ce n'est rien. Oh, ce n'est rien. De toute manière, c'est un livre qui date de... Je ne sais pas.
Ah oui, t'as
parce,
petit,
petit parce que c'est un livre
oui,
qui...
Oui, non, attends, attention, c'est, ce n'est rien. 24 avril 2015, 2012, après. C'est, oui. C'est écrit à revers.
Oui,
non, mais, il est commencé en 2015, mais, fini en 2012.
Tout à fait, mais en fait, il n'est pas terminé. Et cette édition-là, donc, c'était 2019. Mais comme le temps, en fait, on ne sait pas où il est, le temps, il est un peu inversé. Si, il existe, mais il n'est pas certain qu'il existe. Ce livre, en fait, n'existe pas. C'est un non-livre, d'abord. Et c'est un livre qui ne sera jamais terminé. Comme je disais tout à l'heure, tous les gens qui veulent participer, qui veulent rentrer dans le livre, c'est avec grand plaisir. Et que ce livre continue d'être... Voilà, avec d'autres gens, il y a... Bon, il est signé... Est-ce qu'il est signé Je l'ai signé, oui.
Oui, il est signé, oui, il est signé.
Il est signé, Daniel Ziv, mais en fait, non. Tout le monde peut écrire dedans, et à l'extrême, j'enlèverai mon nom.
C'est le livre de Lichtenberg, comme le couteau, sans lame ni manche.
Voilà, en gros. C'est un livre.
Et puis malgré tout, si vous n'avez pas quoi faire dans votre vie, ben, lire Éric Tessier.
Ouais,
hein, Amicitia, voilà. Amicitia, de lire, et voilà. C'est rien, ça échappe à tout. On va dire, ça échappe à toute règle.
Oui, j'espère, en tout cas.
Et on peut le trouver chez Publico actuellement.
Oui, on peut, oui.
Voilà. On va remercier Monique quand même.
Oui.
Voilà.
Merci.
Elle a rendez-vous après parce qu'elle doit avoir une occupation sainte au sortir de Radio Liberté 89.4. Monique. Ah bah bye, à bientôt sur Onde de Choc, Radio Libertaire au 01.